Chapitre 10. Départ. Humbre tombe étoile occupe une place unique dans l'histoire des Six-Duchés. Il n'a jamais été reconnu par son père, mais sa forte ressemblance avec les loin-voyants laisse penser, avec une quasi-certitude, qu'il était apparenté à la lignée royale. Quoi qu'il en fût, son identité n'a guère d'importance en comparaison du rôle qu'il a joué. Certains ont dit qu'il avait espionné pendant des dizaines d'années pour le compte du roi subtil avant les guerres contre les pirates rouges. D'autres ont rapproché son nom de celui de Damtin, qui œuvrait presque sûrement comme empoisonneuse et voleuse pour la famille royale, mais il semble qu'aucune preuve officielle n'a été apportée. Ce que l'on sait sans le moindre doute, en revanche, est qu'il est apparu pour la première fois en public à la suite de l'abandon de Castelserre par le prétendant, royal loin-voyant. Il s'est alors mis aux ordres de Dame Patience, qui a pu dès lors compter sur le réseau de personnes qu'il avait établi dans les Six-Duchés tout entiers, à la fois pour recueillir des informations et distribuer des ressources destinées à la défense du littoral. Tout indique pourtant qu'il a tout d'abord tenté de conserver son rôle de personnage inconnu et dissimulé, mais son aspect extraordinaire rendait cette entreprise difficile, et il a fini par y renoncer. Malgré son âge, il est devenu une sorte de héros, un vieillard plein de panache, si l'on veut, qui se présentait dans les auberges et les tavernes à toute heure du jour ou de la nuit, qui glissait entre les doigts des gardes de Royal et se moquait d'eux, qui transmettait des nouvelles et convoyait des fonds pour la défense des duchés côtiers. Ses exploits suscitaient l'admiration. Il recommandait toujours aux habitants des Six-Duchés de garder courage. Il leur prédisait le retour du roi Vérité et de la reine Kétricaine, qui ôterait de leurs épaules le pénible joug des impôts et de la guerre. Nombre de ballades ont été écrites sur ces hauts faits, mais la plus exacte demeure le cycle de la vie d'Humbre Tombe-Étoile, attribué à la ménestrelle de la reine Kétricaine, Astérie Chant d'Oiseau. Ma mémoire rechigne à évoquer ces derniers jours à Jahampe. Une hébétude s'était emparée de moi, à laquelle ni l'amitié, ni l'eau de vie ne pouvaient rien. Je n'avais plus l'énergie, ni la volonté de rien faire. Si le destin est une grande vague qui doit m'emporter pour me fracasser contre une muraille sans considération pour mes désirs, eh bien, je choisis de rester les bras croisés. Qu'elle fasse de moi ce qu'elle voudra, déclarai-je un soir au fou, avec une grandiloquence un tant soit peu alcoolique. Il ne répondit pas et continua de planter les poils de sa marionnette de loup. Œil de nuit, vigilant mais silencieux, était couché à ses pieds. Quand je buvais, il me fermait son esprit et me signifiait sa répugnance en faisant comme si je n'existais plus. Caudron tricotait dans le coin de l'âtre avec une expression qui oscillait entre la déception et la désapprobation. Humbre était assis sur une chaise à dos droit en face de moi. De l'autre côté de la table, une tasse de tisane posée devant lui, les yeux froids comme du jade. Je buvais seul, inutile de le préciser, et pour la troisième soirée d'affilée. Je mettais en pratique la théorie de Burick, selon laquelle se saouler ne résout rien, mais rend tolérable l'insupportable. Apparemment, ce principe ne s'appliquait pas à moi. Plus j'étais ivre, moins ma situation me semblait tolérable, et plus je devenais insupportable pour mes amis. La journée avait été extrêmement pénible. Humbre était enfin venu me trouver pour m'annoncer que Kétricaine souhaitait me voir le lendemain matin. J'avais répondu que j'irais, puis, sur l'insistance d'Humbre, j'avais accepté de me rendre présentable. Lavé, rasé, proprement vêtu et sans une goutte d'alcool dans l'estomac. Ce qui n'était pas le cas pour le moment. L'instant était mal choisi pour tenter de rivaliser d'esprit ou d'argument avec Humbre, mais je m'y étais lancé pourtant, tant mon bon sens était obscurci. Je lui avais posé des questions sur un ton querelleur et accusateur, et il y avait répondu avec calme. Oui, il avait soupçonné que Molly portait mon enfant. Oui, il avait pressé Burick de la prendre sous son aile. Burick avait déjà veillé à ce qu'elle eût de l'argent et un toit. Il avait renaclé à partager son logis, mais quand Imbre lui avait représenté les risques qu'elle encourait ainsi que son enfant si quelqu'un d'autre découvrait sa situation, il avait fini par céder. Non, il ne m'avait pas averti. Pourquoi ? Parce que Molly avait soutiré à Burick la promesse de ne rien me dire de sa grossesse, et la condition que Burick avait imposée à Imbre pour la protéger comme on le lui demandait avait été qu'il respecte lui aussi cette promesse. À l'origine, Burick avait espéré que je déduirais tout seul le motif de la disparition de Molly. Il avait également confié à Imbre qu'une fois l'enfant né, il se considérerait comme libéré de sa parole et m'annoncerait non que Molly était enceinte, mais que j'avais un enfant. Malgré mon état, je m'étais fait la réflexion que Burick, en cette occasion, avait dû puiser dans ses ultimes réserves de tortuosité d'esprit, et une partie de moi-même avait apprécié son amitié pour moi, si profonde, qu'il avait négocié sa promesse. Mais quand il avait voulu m'avertir de la naissance de ma fille, il n'avait trouvé qu'un cadavre. Il était aussitôt rentré en serre et avait confié la nouvelle à un maçon qui l'avait transmise à un confrère, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'Imbre retrouve Burick sur les quais de pêche. Il n'arrivait ni l'un ni l'autre à y croire.
Burick était incapable d'accepter le fait que tu étais mort. Quant à moi, je ne comprenais pas pourquoi tu étais resté dans la chaumière. J'avais laissé à mes guetteurs tout le long de la route du fleuve la consigne de surveiller ton passage, car j'avais la certitude que tu ne chercherais pas à gagner Terrilleville, mais au contraire que tu te mettrais immédiatement en route pour les montagnes. Malgré tout ce que tu avais enduré, je restais convaincu de ta loyauté. C'est ce que j'avais dit à Burick la nuit de mon départ, qu'il fallait te laisser seul afin de te permettre de décider où allait ta fidélité. J'avais parié avec lui que, livré à toi-même, tu irais tout droit retrouver vérité, telle une flèche décochée. C'est ce qui nous a le plus atterrés, je pense, que tu sois mort là où nous t'avions laissé, et non sur le chemin qui menait à ton roi.
« Eh bien, déclarai-je, avec la lourde suffisance de l'ivrogne, vous vous trompiez tous les deux. Vous croyez me connaître par cœur. Vous croyez avoir fabriqué un instrument incapable de contrarier vos desseins, hein? Mais je ne suis pas mort dans la chaumière. Et je ne suis pas non plus allé à la recherche de mon roi. Je suis parti tuer Royal, pour moi seul. » Je me radossais, les bras croisés, puis me redressais soudain à cause de ma blessure. « Pour moi ? » répétai-je. « Pas pour mon roi, ni pour Serre, ni pour aucun des six duchés. Pour moi, je suis allé le tuer pour moi tout seul. » Imbre continua de me regarder sans répondre, mais dans son coin de l'âtre où elle se balançait, Caudron dit d'un ton empreint d'une satisfaction béate,
« Les écrits blancs l'annoncent. Il aura soif du sang de son propre sang et sa soif jamais ne sera étanchée. Le catalyseur désirera en vain foyer et enfant, car ses enfants seront ceux d'un autre et celui d'un autre le sien. »
« Nul ne peut me forcer à réaliser ces prophéties, » braillai-je. « Qui les a écrites d'abord ?»
Caudron se balança sans rien dire, et c'est le fou qui répondit, d'un ton mesuré, sans lever les yeux de son ouvrage.
« C'est moi, dans mon enfance, à l'époque de mes rêves. Je ne te connaissais pas, sauf dans mes songes. »«
Vous êtes condamné à les réaliser !»
ajouta Caudron avec douceur. Je reposai brutalement ma timbale sur la table.
« Plutôt crever !» hurlai-je.
Nul ne sursauta, ni ne réagit. Dans un éclair terrible de lucidité, j'entendis la voix du père de Molly, affalée dans son coin près de sa cheminée. « Fille maudite !» Molly avait tressailli, mais ne lui avait pas prêté davantage attention. Elle savait qu'on ne raisonne pas avec un ivrogne.
« Molly !»
gémis soudain, et je laissai tomber ma tête sur mon bras pour pleurer à chaudes larmes. Au bout d'un moment, je sentis les mains d'Ambre se poser sur mes épaules.
« Allons, mon garçon. Tout ça ne te mène nulle part. Va te coucher. Demain, tu dois te présenter devant ta reine. »
Il s'exprimait avec beaucoup plus de patience que je n'en méritais. Et je mesurais alors toute la grossièreté dont j'avais fait preuve. Je m'essuyai les yeux avec ma manche et relevai la tête. Sans résister, je laissai Ambre me mettre debout et m'entraîner vers le lit de camp. Je m'y assis, puis...
Vous étiez au courant.
Vous étiez au courant depuis le début.
Au courant de quoi ?
Me demanda-t-il d'un ton las.
De toutes ces histoires de catalyseurs et de prophètes blancs.
Il poussa un soupir.
Je ne sais rien de tout cela.
Mais c'est vrai, je n'ignorais pas qu'il existait des textes à ce sujet.
N'oublie pas que la situation des six duchés était beaucoup plus calme avant que ton père abdique. Pendant de longues années, après m'être retiré dans ma tour, je suis resté souvent plusieurs mois sans avoir à me mettre au service de mon roi, et j'avais amplement le temps de lire et de multiples sources pour me procurer des manuscrits. C'est ainsi que je suis tombé sur des récits et des documents venus de l'étranger qui traitaient d'un catalyseur et d'un prophète blanc.
Sa voix s'adoucit, comme s'il ne tenait plus compte de la colère qui sous-tendait ma question.
C'est seulement après que le fou est entré à Castelserre et que j'ai découvert, par des moyens discrets, qu'il s'intéressait fort à ces textes, que ma curiosité a été piquée. Toi-même, tu m'as dit une fois qu'il t'avait appelé catalyseur. J'ai donc commencé à me poser des questions. Mais, à la vérité, je n'accorde que peu de foi aux prophéties en général.
Je m'allongeai avec précaution. J'arrivais presque à dormir sur le dos, à présent, mais je roulais néanmoins sur le côté, ôtais mes bottes du bout des pieds et tirais une couverture sur moi.
« Fitz !»«
Quoi ? » demandai-je à contre-cœur. « La reine est en colère contre toi. N'attends nulle patience de sa part demain. Mais rappelle-toi que ce n'est pas seulement notre reine, c'est aussi une femme qui a perdu un enfant. »
Qui est resté plus d'un an dans l'incertitude quant à la mort de son époux, qui s'est vu pourchassé jusqu'aux frontières de son pays d'adoption pour trouver de nouveaux malheurs dans sa terre natale. Son père lui en veut, et c'est compréhensible. Il regarde les six duchés et royales d'un œil de soldat, et il n'aurait pas de temps à perdre à rechercher le frère de son ennemi, même s'il le croyait vivant. Ketriken est seul. Plus affreusement seul que nous ne pouvons l'imaginer, toi et moi. Aussi, aie de l'indulgence pour la femme et du respect pour ta reine. »
Il se tut, l'air gêné.
« Tu en auras bien besoin. Je ne puis guère t'aider dans la circonstance. »
Il poursuivit dans la même veine, je crois, mais j'avais cessé de l'écouter, et la houle du sommeil m'engloutit bientôt. Il y avait quelque temps que les songes d'art n'étaient pas venus me troubler. Peut-être parce que ma faiblesse physique repoussait mes rêves de bataille, ou bien parce que la garde constante que je montais contre le clan de Royal leur interdisait l'accès à mon esprit. Mais cette nuit-là, mon bref répit s'acheva. J'eus l'impression qu'une grande main pénétrait en moi, me saisissait par le cœur et me tirait hors de moi. Je me trouvais soudain ailleurs. C'était une ville, dans le sens où des gens y vivaient en grand nombre. Mais ces gens ne ressemblaient à nul que je connusse, et leur habitation à aucune que j'eusse jamais vue. Les bâtiments s'élevaient en spirale jusqu'à des hauteurs vertigineuses, et les murs de pierre semblaient avoir été fondus d'une seule pièce. Il y avait des ponts aux entrelacs délicats, et des jardins qui descendaient en cascade le long des édifices ou les escaladaient. Certaines fontaines dansaient, d'autres formaient des bassins silencieux. Partout, des gens vêtus de couleurs vives déambulaient dans la ville, aussi nombreux que des fourmis. Pourtant, il n'y avait pas un bruit, et tout était immobile. Je pressentais le mouvement des habitants, le jeu des fontaines, le parfum des fleurs qui s'épanouissaient dans les jardins, mais quand je me tournais vers eux, tout disparaissait. L'esprit captait le fin treillis du pont, mais l'œil ne voyait que les ruines éboulées. Les murs ornés de fresques avaient été décapés par le vent qui n'avait laissé que des briques couvertes d'un crépi grossier. Un mouvement de la tête, et la fontaine bondissante devenait poussière envahie d'herbe dans un bassin fissuré. La foule affairée du marché parlait avec la voix d'un vent chargé de sable cuisant. Je me déplaçais dans ce fantôme de ville, désincarné, perdu, incapable de comprendre ce que je faisais là et ce qui m'attirait. Il ne faisait ni noir ni clair, ce n'était ni l'été ni l'hiver. Je suis en dehors du temps, me dis-je, en me demandant s'il s'agissait du suprême enfer de la philosophie du fou ou de l'ultime liberté. Enfin, j'aperçus très loin devant moi une petite silhouette qui suivait à pas lents une des vastes avenues. Elle avait la tête courbée contre le vent et elle tenait le rabat de son manteau devant sa bouche et son nez pour les protéger des tourbillons de sable. Elle ne faisait pas partie de la foule de spectres et se déplaçait parmi les ruines en contournant les fractures du sol ou les soulèvements du pavé consécutifs à l'agitation de la terre. Dans un éclair d'intuition, je sus qu'il s'agissait de vérité. Je le reconnus au sursaut de vie que je sentis dans ma poitrine, et je compris alors que j'avais été attiré en ce lieu par l'infime parcelle d'art de vérité qui se dissimulait encore dans ma conscience. Je perçus aussi qu'il encourait un danger extrême, bien que je ne visse rien de menaçant autour de lui. Il se trouvait à une grande distance de moi, et je le voyais à travers les ombres brumeuses des bâtiments qui n'étaient plus, voilés par les spectres de la foule d'un jour de marché. Il marchait à pas lourds, solitaire, inaccessible à la ville disparue, et pourtant inextricablement lié à elle. Rien ne m'était visible, et cependant le péril pesait sur lui comme l'ombre d'un géant. Je pressais le pas pour le rattraper, et me retrouvai à ses côtés en un clin d'œil. « Ah ! » fit-il en guise d'accueil. « Enfin te voici, Fitz. Bienvenue. » Il ne cessa pas de marcher, il ne tourna même pas la tête. Pourtant, je sentis une chaleur, comme s'il m'avait serré la main, et je n'éprouvais pas le besoin de répondre. En revanche, je vis par ses yeux le danger qui l'attirait. Le lit d'un fleuve passait devant nous. Ce qui le comblait n'était ni de l'eau, ni de la pierre chatoyante, mais participait des deux. Le fleuve coupait à travers la ville comme une lame luisante, venue de la montagne fendue derrière nous pour se jeter par-delà la cité dans un cours d'eau plus ancien, tel un filon de charbon ou de quartz veiné d'or dénudé par un flot furieux. Il gisait à nu sur le corps de la terre. Là coulait la magie la plus pure et la plus antique, inexorablement, sans se soucier des hommes. Le fleuve d'art dans lequel j'avais appris si laborieusement à naviguer était, à cette magie, ce que le bouquet est au vin. Ce que j'entrevoyais par les yeux de vérité possédait une réalité physique aussi concrète que la mienne, et je m'y sentis aussitôt attiré comme le papillon par la flamme. La séduction ne tenait pas seulement à la beauté de ce flot brillant. La magie envahissait tous les sens de vérité. Le bruit de son passage était une musique, un écoulement de notes qui obligeait à écouter avec la certitude d'une symphonie à venir. Le vent transportait son parfum, fugace et changeant. Un instant, pointe de fleurs de citronnier. L'instant d'après, volute de fumée épicée. Chaque inspiration m'apportait sa fragrance, et je n'aspirais qu'à m'y engloutir, brusquement convaincu que la magie étancherait tous les appétits qui me faisaient souffrir, non seulement ceux de mon corps, mais aussi les désirs indistincts de mon âme. Je regrettais amèrement de ne pas être présent physiquement afin d'éprouver aussi complètement que vérité l'extase de ce lieu. Celui-ci s'arrêta, redressa la tête. Il inhala profondément l'air aussi chargé d'art que le brouillard est chargé d'humidité, et tout à coup, je sentis au fond de sa gorge un goût de métal brûlant. L'envie qui le tenaillait devint un désir irrésistible. Une soif irrépressible monta en lui. Il allait s'approcher du fleuve, se jeter à genoux, et y boire tout son content. Alors, toute la conscience du monde l'emplirait. Il participerait du tout et deviendrait le tout. Enfin, il connaîtrait l'accomplissement. Mais vérité lui-même cesserait d'exister. Je me reculais, saisi d'une horreur fascinée. Je ne crois pas qu'il existe plus terrifiant que se trouver face à l'authentique volonté d'autodestruction. Malgré la séduction qu'exerçait le fleuve sur moi, je sentis la colère m'envahir. Ce n'était pas digne de vérité. Ni l'homme ni le prince que j'avais connu n'auraient été capables d'un acte aussi lâche. Je le regardais comme si je ne l'avais jamais vu. Et je mesurais alors depuis combien de temps je ne l'avais effectivement pas vu. Le noir brillant de ses yeux n'était plus qu'une noirceur terne. Son manteau claquant au vent, qu'une loque déchirée. Le cuir de ses bottes avait craqué depuis longtemps et béait aux coutures. Il avançait à pas hésitants et inégaux, et même si le vent n'avait pas soufflé en rafale, sa démarche n'aurait sans doute eu aucune fermeté. Il avait les lèvres pâles et craquelées, le teint grisâtre comme si le sang avait quitté son corps. Certains étés, il avait artisé si puissamment contre les pirates rouges que sa chair et ses muscles fondaient et ne laissaient de lui qu'un squelette vidé de toute énergie physique. Aujourd'hui, au contraire, il n'était plus qu'énergie et ses muscles desséchés se tendaient sur une armature d'os, à peine habillée de chair. C'était l'image même de la détermination et de l'épuisement. Seule sa ténacité lui permettait de rester debout et de marcher vers le flot de magie. J'ignore d'où je tirais la volonté de résister à l'envie de l'imiter, peut-être d'avoir pris un instant pour m'intéresser à lui et vu ce que le monde perdrait s'il devait cesser d'exister tel qu'en lui-même. D'où que me vint cette force, je l'opposai à la sienne. Je me jetai sur son chemin, mais il passa à travers moi. Je n'existais pas en ce lieu. Vérité, je vous en supplie, arrêtez-vous, attendez! Je me précipitai sur lui, plume déchaînée dans le vent, peine perdue. Il ne s'arrêta même pas. Quelqu'un doit s'en charger, murmura-t-il. Trois pas plus loin, il ajouta. Pendant quelque temps, j'ai espéré que ce ne serait pas moi. Mais j'ai retourné la question en tous sens. Qui alors? Il tourna vers moi ses yeux de braise éteinte. Je n'ai pas trouvé de réponse. Il faut que ce soit moi. Vérité, arrêtez-vous! Dis-je d'un ton implorant. Mais il continua d'avancer, sans se presser, s'entraîner. Simplement du pas d'un homme qui a mesuré la distance entre son but et lui, et qui a amassé la force voulue. Il aurait la résistance nécessaire pour aller jusqu'au bout. Je m'écartai légèrement, en sentant mon énergie refluer. L'espace d'un instant, je craignis de le perdre, en étant rappelé dans mon corps endormi, puis je pris conscience d'un péril tout aussi imminent. Si longtemps lié à lui au point d'être encore aujourd'hui attiré vers lui, je risquais de me noyer en même temps que lui dans cette veine de magie. Si j'avais possédé un corps en ce royaume, je me serais sans doute accroché à quelque point d'attache physique et m'y serais cramponné. Mais, tout en suppliant vérité de m'écouter, je manquerais de la seule façon qui me vint à l'esprit. Je tendis mon art vers tous ceux dont l'existence était liée à la mienne. Molly, ma fille, Imbre, le fou, Burik et Ketriken. Je n'avais de véritables liens d'art avec aucun d'entre eux, si bien que ma prise était des plus ténues et amoindrie encore par ma terreur que Guillot, Carode ou même Ronce me repèrent. J'eus l'impression que ma réaction ralentissait vérité. « Par pitié, attendez » dis-je. « Non, » chuchota-t-il. N'essaie pas de me dissuader, Fitz. Je dois le faire. Jamais je n'aurais cru devoir mesurer mon art à celui de vérité. Jamais je n'aurais imaginé m'opposer un jour à lui, et, comme je m'apprêtais à me dresser contre lui, j'eus l'impression d'être un enfant qui rue et hurle, tandis que son père le porte à son lit. Non seulement Vérité ne prêta aucune attention à mon attaque, mais je sentis que sa volonté et sa concentration étaient dirigées ailleurs. Inexorablement, il continua d'avancer vers le flot noir en entraînant ma conscience avec lui. L'instinct de conservation insuffla de la frénésie à ma lutte, et je fis des efforts éperdus pour le repousser, pour le tirer en arrière, mais en vain. Cependant, une affreuse ambiguïté imprégnait mon combat, car j'avais envie de le voir gagner. S'il l'emportait et me précipitait avec lui dans le fleuve, je serais dégagé de toute responsabilité. Je pourrais m'ouvrir à ce flot de pouvoir et m'y désaltérer. Ce serait la fin de mes tourments, ou tout au moins un répit. Comme j'étais là, des doutes et des remords, des devoirs et des dettes. Si Vérité m'entraînait dans ce fleuve d'art, je pourrais enfin rendre les armes sans déshonneur. Vint l'instant où nous nous tîmes au bord de ce flux iridescent de pouvoir. Je le contemplais par les yeux de Vérité. Comme coupé au couteau, la berge s'arrêtait net au ras de l'étrangeté fluide. Le fleuve était pour moi un élément qui n'appartenait pas à notre monde, à un gauchissement de la nature même. Lentement, Vérité mit un genou en terre, puis resta les yeux fixés sur l'obscure luminescence. J'ignore s'il voulait prendre le temps de dire adieu à notre univers ou de rassembler sa volonté avant de se détruire. Ma résolution de le retenir était en suspens. Nous nous trouvions devant une porte qui menait à un inconnu impossible à imaginer. Le désir et la curiosité nous attiraient toujours plus près du bord. Vérité plongea ses mains et ses avant-bras dans la magie. Je partageais avec lui le brutal afflux de connaissances, et je hurlais en même temps que lui quand le flot brûlant rongea sa chair et ses muscles. Je sentis l'attaque acide sur les os dénudés de ses doigts, de ses poignets et de ses avant-bras, et j'éprouvais sa souffrance. Pourtant, elle était chassée de ses traits par le sourire extatique qui illuminait son visage. Le lien qui me rattachait à lui me parut soudain un biais inadéquat qui m'empêchait de ressentir complètement ce qu'il vivait. J'aurais voulu me trouver à ses côtés, offrir moi aussi mes bras nus à ce fleuve de magie. Je partageais sa conviction de pouvoir mettre fin à toute peine simplement en acceptant de me plonger tout entier dans le courant. C'était si facile. Il lui suffisait de se laisser aller un peu plus en avant. À genoux, il se pencha au-dessus du fleuve. Les gouttes de transpiration qui tombaient de son visage disparaissaient en petites bouffées de vapeur au contact de la surface iridescente. Il avait la tête courbée, et ses épaules montaient et descendaient au rythme de sa respiration hachée. Puis, il s'adressa à moi, d'une petite voix implorante. « Tire-moi en arrière !» Je n'avais pas eu la force de résister à sa détermination, mais quand je joignis ma volonté à la sienne et que nous combattîmes ensemble la terrible attraction du pouvoir, je réussis, quoique d'extrême justesse. Il parvint à sortir ses avant-bras et ses mains du fluide, tout en ayant l'impression de les extirper d'un bloc de pierre. À contre-cœur, je le lâchais, et l'espace d'un instant, alors qu'il reculait en chancelant, j'eus la perception totale de ce qu'il avait vécu. Ce qui coulait là, c'était l'unicité du monde, telle une note douce et pure. Ce n'était pas le chant de l'humanité, mais un chant plus ancien, plus grand, qui parlait d'équilibre immense et d'essence inaltérée. Si Vérité s'y était laissée aller, ses tourments eussent été achevés. Mais il s'en détourna d'une démarche titubante, les bras tendus devant lui, la paume des mains vers le ciel, les doigts à demi repliés comme pour mendier. De forme, rien n'avait changé, mais à présent, ses bras et ses mains brillaient comme de l'argent sous l'effet du pouvoir qui avait pénétré sa chair et s'y était répandu. Comme il s'éloignait du fleuve avec la même résolution qu'il s'en était approché, je sentis que ses bras et ses mains le brûlaient comme sous la morsure du froid. « Je ne comprends pas, » lui dis-je. « C'est préférable pour l'instant. » Je perçus une dualité en lui. L'art flambait dans son être comme un feu de forge d'une inconcevable puissance, mais l'énergie que possédait son corps lui permettait à peine de mettre un pied devant l'autre. Protéger son esprit contre la séduction du fleuve ne lui demandait plus aucun effort, mais obliger son corps à suivre le chemin épuisait tant sa chair que sa volonté.
« Fitz, rejoins-moi, je t'en prie !»
Cette fois, il ne s'agissait plus d'une injonction d'art, ni même de l'ordre d'un prince, mais de la supplication d'un homme à un autre.
« Je n'ai pas de clan, Fitz, je n'ai que toi. Si le clan que Galen avait créé pour moi s'était montré loyal, j'aurais davantage confiance dans l'aboutissement de mon devoir. Pourtant, non seulement ses membres sont infidèles, mais ils veulent m'abattre. Ils me picorent comme des corbeaux, insèrent à l'agonie. Je ne pense pas à leurs attaques susceptibles de me détruire, mais je crains qu'ils ne m'affaiblissent au point de m'empêcher de réussir, ou pire encore, qu'ils ne me brouillent l'esprit et ne réussissent à ma place. Nous ne pouvons pas le permettre, mon garçon. Toi et moi sommes les seuls obstacles entre eux et la victoire. Toi et moi, les loin voyants.
Je n'étais pas présent au sens physique. Pourtant, il me sourit et posa une main à l'éclat terrifiant sur ma joue. Était-ce voulu? Je l'ignore. Mais je ressentis un choc aussi violent que si un guerrier m'avait frappé au visage d'un coup de bouclier. Je n'éprouvais cependant aucune douleur, mais de la conscience, comme le soleil crevant les nuages pour illuminer une clairière dans la forêt. Tout m'apparut soudain avec clarté. Je discernais tous les motifs et les buts de notre entreprise, et je compris avec une terrible lucidité pourquoi je devais suivre la route tracée devant moi. Puis, tout s'effaça, et je tombai dans l'obscurité, réduit à rien. Vérité avait disparu, et ma compréhension avec lui. Mais l'espace d'un bref instant, j'en avais eu un aperçu total. Il n'y avait désormais plus que moi, si minuscule que je ne pouvais exister qu'en m'accrochant de toutes mes forces. Je m'accrochais donc. À un monde de distance, j'entendis Astéris exclamer, effrayé.
« Qu'est-ce qu'il a ?»
Et Imbre répondre d'un ton bourru.
« Ce n'est qu'une crise. Il en a de temps en temps. La tête, fou. Tenez-lui la tête ou il va se fracasser le crâne. »
Je sentis vaguement des mains m'agripper et m'empêcher de bouger. Je m'en remis à leurs soins et sombrai dans les ténèbres. Je repris plus ou moins connaissance un peu plus tard. J'en garde peu de souvenirs. Le fou me redressa et me soutint la tête afin que je puisse boire à une timbale qu'Imbre, l'air soucieux, portait à mes lèvres. L'amertume familière de l'écorce elfique me fit faire la grimace. J'entrevis Caudron, debout à côté de moi qui m'observait, la lippe désapprobatrice. Astéris se tenait en retrait, les yeux agrandis comme ceux d'un animal acculé, n'osant pas s'approcher de moi.
« Ça devrait le remettre sur pied, »
dit Imbre, tandis que je m'enfonçais dans un profond sommeil. Le lendemain matin, je me levai tôt, malgré ma migraine, et décidai d'aller au bain. Je sortis de la maison si discrètement que le fou ne se réveilla même pas. En revanche, Œil de Nuit me suivit sans bruit.
« Où es-tu allé la nuit dernière ?»
me demanda-t-il. Mais je ne sus que répondre, et il perçut ma réticence à y songer.
« Bon. « Je vais chasser, »
m'informa-t-il d'un ton guindé.
« Je te conseille de ne boire que de l'eau aujourd'hui. »
J'acquiesçai humblement, et il me laissa à la porte de la maison de bain. À l'intérieur, je fus accueilli par la forte odeur minérale que dégageait l'eau bouillonnante montée des entrailles de la terre. Les montagnards la captaient dans de vastes bassins, puis la répartissaient par divers tuyaux dans des cuves qui permettaient à chacun de choisir la chaleur et la profondeur désirée. Je me lavai dans l'une d'elles, puis m'immergeai dans l'eau la plus chaude que je pusse supporter, en essayant de ne pas me rappeler la brûlure de l'art sur les avant-bras de vérité. J'en ressortis rouge comme un crabe bouilli. À l'extrémité la plus fraîche de la maison de bain se trouvaient plusieurs miroirs, dans lesquels je m'efforçais de ne pas me voir tout en me rasant. Mes traits m'évoquaient trop vivement ceux de vérité. Ils avaient perdu un peu de leur émaciation au cours de la semaine passée, mais ma mèche blanche avait repoussé, encore plus visible quand je me coiffais en queue de guerrier. Je n'aurais pas été étonné de distinguer l'empreinte de la main de vérité sur mon visage, ni de découvrir que ma balafre avait disparu et que mon nez s'était redressé, tant son contact m'avait impressionné. Mais, au contraire, la pâleur de la cicatrice que Royal m'avait laissée ressortait encore davantage sur ma peau rougie par la vapeur, et l'état de mon nez ne s'était pas amélioré. Je ne portais aucune marque de ma rencontre de la nuit. Mon esprit ne cessait de revenir sur cet instant où j'avais touché le pouvoir le plus pur. J'avais beau faire, je n'arrivais pas à me rappeler complètement cette expérience absolue dont il n'était possible de retrouver, comme la douleur ou le plaisir, qu'un pâle souvenir. Je savais que j'avais éprouvé quelque chose d'extraordinaire. Les délices de l'art, contre lesquels on mettait en garde tous les pratiquants, n'étaient qu'une petite braise comparée au brasier de savoir, de sensations et des sens que j'avais brièvement connus la nuit précédente. Cela m'avait changé. La colère que je nourrissais envers Ketriken et Imbre s'était dégonflée. L'émotion était encore là, mais je n'étais plus en mesure de lui insuffler toute sa force. Un infime instant, j'avais vu non seulement mon enfant, mais toute la situation de tous les points de vue possibles. Et il n'y avait nulle malice dans les intentions de mes compagnons, nul égoïsme. Ils étaient convaincus de la moralité de leur entreprise. Pas moi. Mais il ne m'était plus possible de nier purement et simplement la logique de leurs actes. J'avais l'impression d'avoir été dépouillé de mon âme. Ils allaient nous prendre notre enfant, à Molly et à moi, et pourtant, si je pouvais abhorrer leurs gestes, je ne pouvais plus diriger cette colère contre eux. Je secouai la tête et revins au présent. Je contemplais mon image dans le miroir en me demandant comment Ketriken allait me considérer. Verrait-elle en moi le jeune homme toujours attaché au talon de vérité qui l'avait si souvent servi à la cour, ou bien examinerait-elle mon visage marqué et songerait-elle qu'elle ne me connaissait plus, que le Fitz d'autrefois n'était plus. Elle savait en tout cas comment j'avais gagné ces cicatrices. Ma reine ne devrait donc pas s'en étonner. Quel juge seul qui se trouvait derrière ces balafres. Je rassemblai mon courage, puis présentai mon dos au miroir et regardai par-dessus mon épaule. Le cœur de ma blessure m'évoqua le dessin en creux d'une étoile de mer rouge. Tout autour, la chair était tendue et luisante. Je bougeai une épaule pour observer la peau qui tirait sur la cicatrice. Quand je tendis mon bras d'épée, je sentis une petite résistance. Bah, inutile de se faire du souci. Je renfilai ma chemise. Je retournai chez le fou changer de tenue et j'eus la surprise de le trouver déjà vêtu et prêt à m'accompagner. Des habits étaient étendus sur mon lit de camp, une chemise blanche en laine à manches bouffantes, chaude et moelleuse, et des jambières noires en laine plus épaisse. Il y avait aussi un surcot assorti aux jambières. C'était Imbre qui les avait apportés, me dit le fou. L'ensemble était très simple de coupe et de couleur.
« Ça te va bien, »
observa le fou. Lui-même s'était habillé presque comme d'habitude, avec une robe de laine, mais celle-ci était bleu marine, avec des broderies aux manches et aux ourlets, style qui se rapprochait davantage de celui des montagnards, mais qui accentuait sa pâleur bien plus que sa robe blanche habituelle, et rendait plus visible, à mon avis, la légère couleur fauve qui gagnait son teint, ses yeux et sa chevelure. Ses cheveux étaient plus fins que jamais. Libre, il semblait flotter autour de sa tête, mais aujourd'hui, il les portait noués en queue. « J'ignorais que Ketriken t'avait convoqué toi aussi, » remarquai-je, à quoi il répondit d'un ton sarcastique.
« Raison de plus pour me présenter devant elle.
Imbre est passé te voir ce matin, et il s'est inquiété de te trouver absent. À mon avis, il craignait plus ou moins que tu ne te sois enfui de nouveau avec le loup. Mais, dans le cas contraire, il a laissé un message pour toi. En dehors des personnes qui sont entrées chez moi, Nul ne connaît ta véritable identité, Ajahnpe, aussi étrange que puisse paraître tant de discrétion de la part de la ménestrelle. Même la guérisseuse ignore qui elle a guéri. Ainsi, n'oublie pas que tu restes Tom le berger jusqu'au moment où la reine Kétriken jugera pouvoir s'adresser à toi de façon plus officielle. Compris ?
Je soupirai. Je ne comprenais que trop bien. À ma connaissance, jamais Jahanpe n'avait dissimulé d'intrigue, observai-je. Il eut un petit rire.
Tu n'es venu ici qu'une fois, et pendant peu de temps. Crois-moi, Jahanpe abrite des intrigues tout aussi tortueuses que Castelcerf autrefois. En tant qu'étrangers, nous serions avisés d'éviter autant que possible de nous y trouver mêlés.
Sauf à celles que nous apportons avec nous, fis-je, et il acquiesça avec un sourire amer. La journée était éclatante, l'air vif. Le ciel que nous apercevions entre les sombres frondaisons des conifères était d'un azur infini. Une petite brise nous accompagnait en faisant rouler les cristaux de neige sur les crêtes gelées des congères. La neige crissait sous nos bottes, et le froid posait d'âpres baisers sur mon visage rasé de frais. Plus loin dans le village, j'entendais des cris d'enfants en train de jouer. Œil de Nuit dressa les oreilles, mais continua de nous suivre. Ses voix aiguës au loin m'évoquèrent des oiseaux de mer, et une violente nostalgie me prit soudain des côtes de serre.
« Tu as eu une crise hier soir, » me dit le fou à mi-voix. Ce n'était pas tout à fait une question.
« Je sais, » répondis-je laconiquement.
Caudron avait l'air très angoissé. Elle a soumis Imbre à un interrogatoire serré sur les plantes qu'il te préparait, et quand elle a vu qu'elle ne te remettait pas d'aplomb comme il l'avait promis, elle est allée s'asseoir dans son coin. Elle y a passé la plus grande partie de la nuit, à tricoter à grand bruit et à jeter des regards noirs à Imbre. Quel soulagement quand ils sont enfin tous partis.
Je me demandais si Astérie était restée, elle, mais je ne posais pas la question. Je n'avais pas envie de savoir pourquoi cela m'importait.
« Qui est Caudron ?»
demanda brusquement le fou.
« Qui est Caudron ?»
répétai-je surpris.
« Ça, je viens de le dire, il me semble. »«
Caudron est... » L'étrangeté d'en savoir si peu sur une personne avec qui j'avais si longtemps voyagé me frappa soudain. Elle est née en Serre, je crois, puis elle a bourlingué, étudié des manuscrits et des prophéties, et elle est rentrée pour chercher le prophète blanc. Je haussai les épaules avec dérision devant la minceur de mes renseignements.
« Dis-moi... » Tu ne la trouves pas troublante.
Pardon?
Tu ne sens pas quelque chose chez elle, quelque chose de...
Il secoua la tête avec irritation. C'était la première fois que je voyais le fou chercher ses mots.
Parfois, je sens qu'elle est importante, que son sort est lié au nôtre. D'autres fois,
elle a simplement l'air d'une vieille indiscrète affligée d'un manque de goût attristant dans le choix de ses compagnons.
« C'est à moi que tu fais allusion, je suppose !»
fis-je en éclatant de rire.
« Non, je parle de cette ménestrelle qui se mêle de tout.
Pourquoi tant d'aversion entre Astérie et toi ? » demandai-je avec lassitude.
« Il ne s'agit pas d'aversion, mon cher Fitsune. De ma part... Il s'agit d'indifférence. Malheureusement, elle n'est pas capable de concevoir qu'un homme puisse la regarder sans avoir envie de coucher avec elle. Par conséquent, elle prend mon absence d'intérêt pour une insulte et s'évertue à y voir un défaut chez moi, tandis que son attitude possessive envers toi m'exaspère. Elle n'a pas de véritable affection pour Fitz, tu sais. Elle veut simplement pouvoir dire qu'elle a connu Fitz Chevalerie.
Je gardais le silence. Je craignais qu'il n'eût raison. Sur ces entrefaites, nous arrivâmes au palais de Jahanpe. Je n'aurais pu imaginer construction plus éloignée du style de Castelcerf. Il paraît que les bâtiments de la capitale doivent leur aspect aux tentes en forme de dôme qu'utilisent encore quelques tribus nomades. De fait, certaines maisons parmi les plus petites rappellent encore assez des tentes pour ne pas me sembler aussi surprenante que le palais. L'arbre vivant qui en constituait le maître pilier se dressait, immense, au-dessus de nous, et d'autres arbres de moindre stature avaient été patiemment guidés pendant des années pour servir d'appui au mur. Une fois cette armature créée, on l'avait gracieusement drapée de nattes d'écorce qui formaient la base des murs doucement incurvés. Crépies d'une sorte d'argile, puis peintes de couleurs vives, les constructions m'évoquaient toujours des boutons de tulipes ou des chapeaux de champignons, et malgré ses vastes dimensions, le palais avait une apparence organique, comme s'il avait poussé dans l'humus fertile de la vieille forêt qui l'abritait. Ses proportions seules en faisaient un palais, car on n'y voyait aucun signe de sa fonction, ni bannière, ni gardes royaux devant les portes. Nul ne chercha à nous en interdire l'accès. Le fou ouvrit les battants sculptés à cadre de bois d'une entrée latérale et nous fûmes dans la place. Je le suivis à travers un labyrinthe de chambres isolées. D'autres pièces se dressaient sur des plateformes au-dessus de nous, auxquelles on accédait par des échelles ou, pour les plus grandes, des escaliers de bois. Les parois de ces habitations étaient fragiles, réduites, dans le cas de certaines pièces temporaires, à de simples plaques d'écorce tendues sur des cadres de bois. Il ne faisait guère plus chaud dans le palais que dans la forêt alentour, et les chambres étaient chauffées en plein hiver par des braseros individuels. Le fou nous mena devant une salle dont les parois extérieures étaient décorées de délicates représentations d'oiseaux aquatiques. Il s'agissait là d'une pièce fixe, munie de portes coulissantes en bois, elle aussi ornée d'oiseaux sculptés. De l'intérieur provenait le son de la harpe d'Astérie et un murmure de voix. Le fou frappa à la porte, attendit un instant, puis nous ouvrit. Ketriken se trouvait là, en compagnie de l'ami du fou, Joffron, et de plusieurs autres personnes que je ne connaissais pas. Astérie était assise sur un banc bas d'un côté de la salle et jouait doucement, tandis que Ketriken et sa suite brodaient une courte pointe fixée sur un cadre qui occupait presque toute la pièce. Un jardin floral aux couleurs éclatantes se dessinait sur le tissu. Humbre était installée non loin d'Astérie, vêtue d'une chemise blanche, de jambières noires et d'une longue tunique en laine ornée de broderies aux teintes gaies par-dessus la chemise. Ses cheveux étaient noués en queue de guerrier et son front était ceint d'un bandeau de cuir frappé du cerf. Il paraissait des dizaines d'années plus jeune qu'à Castelserre. La ménestrelle et lui bavardaient, mais le son de la harpe, pourtant à peine effleurée, couvrait leur voix. Ketriken leva les yeux, l'aiguille à la main, et nous souhaita calmement la bienvenue. Puis, elle me présenta sous le nom de Tom et me demanda courtoisement si je me remettais de ma blessure. Je répondis par l'affirmative, et elle m'offrit de m'asseoir pour me reposer un peu. Le fou fit le tour de la courte pointe, félicita Joffron de son point et, quand elle l'y invita, prit place à côté d'elle. Il prit une aiguille, de la soie floche dont il fit un fil, puis se mit à broder des papillons de son invention, tout en causant à mi-voix avec Joffron des jardins qu'ils avaient connus. Il paraissait parfaitement à l'aise. Pour ma part, je me sentais un peu perdu. Assis à ne rien faire dans une pièce pleine de gens affairés. Je pensais que Ketriken allait s'adresser à moi, mais elle continua ses travaux d'aiguille. Astérie croisa mon regard et me fit un sourire presque guindé. Humbre, lui, faisait comme si nous ne nous connaissions pas. Les échanges allaient bon train, mais murmurés et intermittents, demandes des chevaux ou commentaires sur l'ouvrage du voisin ou de la voisine. Astérie jouait de vieilles ballades familières de serre, mais sans les paroles. Nul ne me parlait, ni ne s'intéressait à moi. J'attendais. Au bout de quelque temps, je commençais à me demander s'il s'agissait d'une forme subtile de punition. J'essayais de demeurer calme, mais la tension ne cessait de monter en moi. Toutes les 2 ou 3 minutes, je devais me rappeler de décrisper les mâchoires et les épaules. Il me fallut un moment pour noter chez Ketriken les signes d'une semblable anxiété. J'avais passé de nombreuses heures en compagnie de madame lorsqu'elle s'était installée à Castelserre. Je l'avais vue léthargique aux travaux d'aiguille et pleine de vie dans son jardin. Mais aujourd'hui, Elle cousait furieusement, comme si le sort des six duchés dépendait de l'achèvement de la courte pointe. Elle était plus mince que dans mon souvenir, et sur son visage, l'ossature et les méplats étaient plus accusés. Ses cheveux, un an après qu'elle les eut coupés en marque de deuil pour vérité, restaient trop courts pour être coiffés commodément. Des mèches pâles ne cessaient de tomber sur son visage. De nouvelles rides étaient apparues au coin de ses yeux et de sa bouche, et elle se mordillait souvent les lèvres, ce que je ne lui avais jamais vu faire auparavant. La matinée me parut interminable, mais un des jeunes gens finit par se redresser de son siège, s'étira, puis déclara qu'il avait les yeux trop fatigués pour en faire davantage. Il demanda à sa voisine si elle avait envie de l'accompagner à la chasse, et elle accepta de bon cœur. Comme si cela avait été un signal, les autres se levèrent à leur tour, s'étirèrent et souhaitèrent le bonjour à Ketriken. D'abord stupéfait par la familiarité dont il faisait preuve avec elle, je me rappelais bientôt qu'en ce pays, elle n'avait pas statut de reine, mais d'oblat des montagnes. Son rôle n'était pas pour son peuple celui d'un gouvernant, mais d'un guide et d'un coordinateur. Son père, le roi Iod, portait le titre d'oblat, et se devait d'être toujours, et sans égoïsme aucun, disponible pour aider son peuple de toutes les façons possibles. C'était une position moins honorifique que la royauté de Serre, mais qui attirait davantage d'affection. N'ayant rien de mieux à faire, je me demandais s'il n'aurait pas mieux convenu à Vérité de devenir roi consort de ce pays. Fitz-chevalerie. Je levai les yeux à l'appel de Ketriken. Il ne restait plus dans la pièce qu'elle-même, Astérie, Imbre, le fou et moi. Je faillis regarder Imbre pour lui demander conseil, mais je me rappelais à temps qu'il m'avait comme exclu. Je devais me débrouiller seul. Au ton de Ketriken, c'était une audience officielle. Aussi me levai-je et m'inclinai-je raidement. « Ma reine, vous m'avez convoqué. Expliquez-vous. » Le vent qui soufflait dehors était moins polaire que sa voix. Je croisais son regard, bleu de glace. Je baissai les yeux et pris une inspiration. Dois-je vous rendre compte, ma reine? Si cela peut faire connaître les raisons de vos manquements, oui. Je restais bouche bée. Je la regardais, mais rien ne passa entre nous. Toute trace d'enfant avait disparu de Ketriken, comme les impuretés du fer disparaissent au feu et au marteau de la forge, et elle ne paraissait plus éprouver quoi que ce fût pour le neveu bâtard de son époux. Elle trônait devant moi en tant que reine et juge, non en tant qu'amie. Je fus surpris de la peine aiguë que j'en éprouvais. Oubliant mon bon sens, je ne pus m'empêcher de répondre d'un ton froid. Je m'en remets là-dessus au discernement de ma reine. Elle se montra impitoyable. Elle me fit débuter mon récit, non à ma mort, mais plusieurs jours auparavant, au moment où nous avions commencé à comploter l'enlèvement du roi subtil pour le mettre hors de portée de royale. Je dus avouer que les ducs côtiers m'avaient proposé de me reconnaître comme roi servant à la place de royal. Pis, je dus lui révéler que, tout en refusant leur offre, j'avais promis de faire front avec eux en prenant le commandement de Castelserre afin d'assurer la protection de la côte de Serre. Imbre m'avait averti un jour que cette promesse constituait presque en soi une félonie. Mais j'étais las de tous mes secrets et je les exposais sans me ménager. Plus d'une fois, je regrettais la présence d'Astérie, car je redoutais d'entendre mes propres paroles reprises dans une chanson qui me dénigrerait. Cependant, si ma reine la jugeait digne de confiance, ce n'était pas à moi de la contredire. Je poursuivis donc péniblement sur la piste des jours. Elle apprit la mort du roi subtil dans mes bras, l'égorgement de Sereine et la chasse que j'avais donnée à Justin avant de l'assassiner devant toute l'assemblée de la grand salle. Quand j'en arrivai à mon séjour dans les cachots de Royal, elle ne fit preuve d'aucune pitié. Il m'a fait rouer de coups, privé de nourriture. Et j'aurais péri si je n'avais pas faim la mort, dis-je, mais cela ne suffit pas à Ketriken. Je n'avais raconté à personne, pas même à Burik, tout ce que j'avais vécu à cette période. Je m'armais de courage et me lançai, mais au bout d'un moment, ma voix se mit à trembler, puis à hésiter. Je regardai le mur derrière Ketriken, repris mon souffle et poursuivis. Mes yeux se posèrent un peu plus tard sur la reine, et je vis qu'elle était devenue blême. Enfin, je cessai de penser aux événements que décrivaient mes propos, et j'entendis ma propre voix relater sans passion tout ce qui m'était arrivé. Quand je mentionnai que j'avais artisé vérité depuis ma cellule, Ketriken eut un petit hoquet. En dehors de cela, il régnait un silence absolu dans la pièce. Une fois, mes yeux se portèrent sur Imbre. Il était assis dans une immobilité de cadavre, les mâchoires crispées, comme s'il endurait quelque tourment intérieur. Je continuai mon récit, évoquai sans y adjoindre de jugement personnel ma résurrection par Imbre et Buric, la magie du vif qui avait rendu la chose possible et les jours qui suivirent. Je racontais notre séparation en mauvais termes, le détail de mon voyage, les occasions où j'avais senti la présence de vérité, celle où nous nous étions brièvement contactés, ma tentative d'assassinat sur Royal, et même l'implantation involontaire de l'ordre de le rejoindre que m'avait fait subir vérité. Ma gorge et ma bouche s'asséchaient et ma voix devenait de plus en plus rauque à mesure qu'avançait mon compte-rendu. Mais je ne me tus qu'après avoir fini de décrire le dernier trajet, qui m'avait amené, titubant, à Jaamp. Alors, je restais debout devant Ketriken, vide, épuisé. D'aucuns disent que c'est un soulagement de partager peine et soucis. Pour moi, il n'y avait eu nulle catharsis. Seulement, l'exhumation de souvenirs pourrissants, la mise à nu de blessures qui suppuraient encore. Après un moment de silence, je trouvais la cruauté de demander. Mon exposé excuse-t-il mes manquements, ma reine? Si j'avais cru lui déchirer le cœur, j'avais échoué là aussi. Vous n'avez pas parlé de votre fille, Fitz-Chevalerie. C'était exact. Je n'avais mentionné ni Molly, ni la petite. La peur me pourfondit telle une épée de glace. Je n'ai pas considéré qu'elle faisait partie de mon compte-rendu.
« Il le faut pourtant, c'est évident !»
répondit Ketriken implacable. Par un effort de volonté, je parvins à croiser son regard. Elle se tenait les mains crispées l'une sur l'autre. Tremblait-elle? Avait-elle à l'avance des remords de ce qu'elle allait dire? Je ne pus en décider. Étant donné son lignage, elle fait bien plus que faire partie de notre discussion. Dans l'idéal, elle devrait se trouver parmi nous, où il nous serait possible de garantir, dans une certaine mesure, la sécurité de l'héritière des loins voyants. Je m'imposai le calme.
Ma reine, c'est à tort que vous la désignez ainsi. Ni elle ni moi n'avons aucun droit au trône. Nous sommes tous deux illégitimes.
Ketriken secoua la tête.
Nous ne nous intéressons pas ici à ce qu'il y a ou à ce qu'il n'y a pas entre la mère et vous. Nous ne nous intéressons qu'à son ascendance. Quelque prétention que vous ayez pour elle, son sang l'appellera. Je n'ai pas d'enfant.
Avant de l'avoir entendu prononcer cette phrase, je ne me rendais pas compte de la profondeur de sa douleur. Quelques instants plus tôt, je la jugeais sans cœur. À présent, je me demandais si elle avait encore toute sa tête, tant cette seule phrase exprimait de chagrin et de désespoir. Elle prit sur elle pour continuer.
Il faut un héritier au trône des loins voyants. Imbre m'a expliqué que, seul, je ne puis compter rallier le peuple et l'inciter à prendre en main sa protection. À ses yeux, je demeure trop étrangère. Mais peu importe comment il me considère, je reste sa reine et j'ai un devoir à remplir. Je dois trouver le moyen d'unir les six duchés et de chasser les envahisseurs de nos côtes. Dans ce but, il faut un chef. J'ai songé vous mettre en avant, mais Imbre prétend que les gens ne vous accepteront pas. Votre prétendue mort
et l'usage de la magie des bêtes constitue un trop grand obstacle. Cela étant, il ne subsiste de la lignée des loin-voyants que votre enfant, car Royal s'est avéré félon à son propre sang. C'est donc elle qui doit devenir l'oblat de notre peuple. Il se ralliera à elle. »
J'eus l'audace de l'interrompre.
« Ce n'est qu'un nourrisson, ma reine. Comment pourrait-elle ? C'est un symbole !»« C'est tout ce que le peuple exigera d'elle pour le moment, qu'elle existe. Plus tard, elle deviendra leur reine de fait. »
J'eus l'impression qu'elle m'avait coupé le souffle d'un coup de poing. Elle poursuivit.
« Je vais envoyer Ambre la chercher pour la ramener ici, où l'on pourra la protéger et lui donner une instruction convenable. »
Elle soupira.
« J'aimerais pouvoir la faire accompagner de sa mère. Malheureusement, il faut présenter cet enfant comme la mienne. Que je déteste ce genre de duperie. Mais Ambre m'a convaincu que cela était nécessaire. J'espère qu'il saura aussi convaincre la mère de votre fille. »
Elle ajouta comme pour elle-même.
« Nous devrons dire que nous avons annoncé la mort de mon enfant à sa naissance, afin de faire croire à Royal qu'il n'avait nul héritier rival à redouter.
Mon pauvre petit garçon,
son peuple ne saura jamais qu'il est né. C'est ainsi, sans doute, qu'il joue son rôle d'oblat. »
Je m'aperçus que je dévisageais Kétriken, et je constatais qu'il ne restait guère de la reine que j'avais connue à Castelserre. Ses propos me faisaient horreur, me révulsaient. Pourtant, c'est d'une voix douce que je demandais. « Pourquoi tout cela est-il nécessaire, ma reine ?»« Le roi Vérité est vivant. Je vais le retrouver et faire tout mon possible pour vous le rendre. Ensemble, vous régnerez à Castelserre et vos enfants à votre suite. »«
Qu'en savons-nous ?»
Elle faillit secouer la tête en signe de dénégation.
« Cela sera peut-être, fit ce chevalerie. Mais j'ai trop longtemps espéré en vain que tout s'arrangerait. Je ne veux plus être victime de telles illusions. Il faut s'assurer de certains points avant de prendre d'autres risques. Il nous faut un héritier à la lignée des loin-voyants. »
Elle soutint calmement mon regard.
J'ai rédigé la déclaration et en ai remis une copie à Ambre, tandis qu'une autre restera ici, en sécurité. Votre enfant est l'héritière du trône, fit ce chevalerie.
J'avais réussi à garder mon âme intacte en me raccrochant à un infime espoir. De longs mois durant, j'avais trouvé la force d'avancer en songeant qu'une fois mes aventures terminées, je retrouverais Molly, reconquérerais son cœur et deviendrais le père de ma fille. D'autres rêvent peut-être d'honneur, de fortune, ou de hauts faits chantés par les ménestrels. Moi, je voulais rentrer dans une petite chaumière, à l'heure où la lumière décroît, m'asseoir dans un fauteuil près d'une cheminée, le dos douloureux de labeur, les mains rugueuses de travail, et prendre une petite fille sur mes genoux, pendant qu'une femme qui m'aimait me racontait sa journée. De tout ce qui m'avait été interdit, simplement à cause de mon sang, cette vision m'était la plus chère. Devais-je à présent y renoncer aussi? Devais-je rester pour toujours aux yeux de Molly, l'homme qui lui avait menti, qui l'avait abandonnée enceinte et qui n'était jamais reparu? Puis, par la faute de qui, elle s'était vue dépouillée de son enfant? J'avais parlé tout haut, sans m'en apercevoir, et je ne m'en rendis compte qu'au moment où la reine répondit.
« C'est cela, être oblat, fit ce chevalerie. On ne peut rien garder pour soi-même, rien. »
Dans ce cas, je ne la reconnaîtrai pas. Ces mots me brûlèrent la langue comme de l'acide. Je ne la revendiquerai pas comme ma fille.
Ce sera inutile, car je la revendiquerai comme la mienne. Votre sang est fort. Elle aura sans doute les traits loin-voyants. Pour le dessein qui est le nôtre, il me suffit de savoir qu'elle est de vous. Vous l'avez déjà avoué à Astérie, la ménestrelle. Vous lui avez dit avoir engendré un enfant avec Molly, fabricante de bougies de Bourg de Castelserre. Dans tous les six duchés, Le témoignage d'un ménestrel est recevable, et elle a déjà signé le document en jurant sous serment savoir que l'enfant est un véritable loin-voyant.
« Fitz Chevalerie, » poursuivit-elle d'une voix presque tendre, « bien que je fusse sur le point de perdre connaissance de l'entendre ainsi parler,
nul n'échappe au destin,
pas plus vous que votre fille.
Prenez du recul et comprenez que c'est la raison de son existence. » Quand toutes les circonstances conspiraient à refuser un héritier à la lignée des loin-voyants, il en a pourtant été créé un par vous, accepté et supporté.
C'étaient les mots à ne pas prononcer. Elle avait peut-être été élevée selon ce précepte, mais moi, on m'avait dit, le combat n'est achevé que quand on l'a remporté. Je levai les yeux et les promenait sur les personnes qui m'entouraient. J'ignore ce qu'elles virent sur mes traits, mais tous les visages se figèrent. « Je puis trouver vérité, » déclarai-je à mi-voix. « Et je le trouverai. » Nul ne dit mot. « Vous voulez votre roi ?» continuai-je à l'adresse de Ketriken. Elle finit par prendre une expression d'acquiescement. « Moi, je veux mon enfant. » murmurai-je. Que dites-vous ? Demanda-t-elle d'un ton froid. Je dis que je veux la même chose que vous. Je souhaite être auprès de celle que j'aime pour élever notre enfant avec elle. Je croisai son regard. Dites-moi que c'est possible. Je n'ai jamais rien désiré d'autre. Elle planta ses yeux dans les miens. Je ne puis vous faire cette promesse, Fitz Chevalerie. Cette enfant est trop importante pour la laisser accaparer par la simple affection. » Ces propos sonnèrent à mes oreilles comme totalement absurdes et parfaitement exacts à la fois. J'inclinai la tête, mais ce n'était pas un signe d'assentiment. Les yeux fixés sur un trou du plancher, je cherchais d'autres alternatives, d'autres moyens.
« Je sais ce que vous allez me dire, » fit Ketriken d'un ton amer. Que si je m'approprie l'enfant pour le trône, vous ne m'aiderez pas à chercher vérité. J'ai longuement réfléchi, sachant que cette décision m'interdirait votre appui. Je suis prête à me mettre seule en quête de lui. Je possède la carte. Et je finirai bien par Ketriken.
J'avais prononcé son nom à mi-voix, en omettant involontairement son titre. Elle en resta saisie. Je secouai lentement la tête. « Vous ne comprenez pas ?» Si Molly se trouvait devant moi avec notre fille, je devrais encore chercher mon roi. Quoi qu'on me fasse, quel que soit le tort qu'on m'inflige, je dois chercher vérité. À ces mots, les visages changèrent. Humbre redressa la tête et me regarda, les yeux pleins d'une fierté brûlante. Ketriken se détourna en battant des paupières pour chasser ses larmes. Peut-être ressentait-elle un peu de honte. Pour le fou, j'étais redevenu le catalyseur, et en Astérie renaissait l'espoir de me voir à l'origine d'une légende. Mais en moi, c'était la fin de l'absolu qui primait. Vérité me l'avait montré sous sa forme pure. Je répondrai à l'ordre d'art de mon roi, et je le servirai comme j'en avais fait le serment. Mais un autre appel résonnait désormais en moi, celui de l'art.